France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Notre monde a changé. Les États-Unis ne sont plus la grande démocratie à laquelle nous aimions nous comparer et sur laquelle nous nous sommes si souvent ajustés. Le respect des libertés, les valeurs républicaines, depuis le discours de vendredi de Jade Evans, tout vient d'exploser. Alors comment résoudre aujourd'hui nos dossiers? Avec quels partenaires? Quels alliés? Emmanuel Macron tente de manœuvrer, d'exister, mais depuis sa dissolution ratée, le chef de l'État a bien du mal à imprimer. Est-ce que les Européens sauront rester unis? Qui, quelle voix, quel État pour s'opposer à la brutalité des États-Unis? On en parle avec notre invité, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, par ailleurs vice-président du Modem. Il est ce dimanche dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécart sur France Inter.
Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour Karine Bécart.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
À mes côtés, pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Et une autre Nathalie, Nathalie Segaune du journal Le Monde. Bienvenue Nathalie.
Merci Karine.
L'émission débute toujours avec vos images de la semaine, ce qui nous permet de nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité depuis dimanche dernier. Je commence avec vous, Jean-Noël Barrot. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine en particulier ?
Cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est ma rencontre avec Farid Almazan, qui est connu sous le pseudonyme de César, et qui est sans doute l'un des plus grands résistants de ce quart de siècle. Et en le disant, je pense évidemment à Alexei Navalny, dont nous commémorons la première année de sa disparition, après avoir courageusement lutté contre le régime de Vladimir Poutine. César était photographe légiste du régime de Bachar al-Assad au début des années 2010. Sa mission, c'était de photographier les corps mutilés, démembrés, torturés, victimes de la répression sanglante de Bachar al-Assad. En 2014, il a eu le courage inouï de décider de fuir la Syrie et d'aller témoigner à l'extérieur de ce qui s'était passé en prenant des risques extraordinaires pour sa propre sécurité et celle de sa famille. C'est la France qui l'a accueilli en 2014, qui l'a protégé et qui lui a permis, sous couvert d'anonymat, de révéler au monde entier la brutalité et les horreurs du régime de Bachar al-Assad, ce qui a permis à la communauté internationale de se mobiliser, de prendre des sanctions très lourdes qui ont fini par provoquer, avec la résistance des Syriennes et des Syriens, la chute de ce régime. César a témoigné pour la première fois à visage découvert le 6 février dernier. Je l'ai reçu vendredi pour lui témoigner du soutien de la France, de la reconnaissance de la France et du fait que nous continuerons à être à ses côtés, puisque encore aujourd'hui et sans doute jusqu'à la fin de sa vie, sa sécurité sera en jeu, tant l'acte qu'il a posé était héroïque.
Alors la Syrie en ce moment avance tout doucement dans sa transition. Dans deux semaines d'ailleurs, il y a un nouveau gouvernement qui va être installé à partir du 1er mars. En revanche, il y a un dossier qui n'avance pas beaucoup, pas très vite. C'est celui des enfants français de parents djihadistes regroupés dans des camps en Syrie. On parle toujours du même pays. Ça représente à peu près 120 jeunes français. Est-ce qu'ils doivent rentrer en France, Jean-Noël Barrot? On en est où de ce dossier?
Chaque fois que nous l'avons pu ces dernières années, nous avons agi pour rapatrier les enfants des combattants terroristes djihadistes.
Depuis 2023, il n'y en a plus.
Dont nous considérons qu'ils n'ont pas à répondre des actes de leurs parents, si graves soient-ils. Ces exercices de rapatriement sont particulièrement compliqués parce qu'ils supposent que les conditions de sécurité soient réunies. On est sur une zone de guerre et ils supposent d'obtenir auparavant le consentement des mères de ces enfants. Chaque fois que ces deux conditions ont été réunies, nous avons lancé des opérations de rapatriement. Et chaque fois qu'elles le seront, dans l'avenir très proche, et on y veille très attentivement, nous le ferons à nouveau.
Pourquoi nous on n'y arrive pas? Pourquoi l'Irak, cette semaine, a réussi à le faire? Pourquoi eux, ils arrivent à mettre en place les règles de sécurité nécessaires et pas nous?
Alors, rapatrier des enfants. En France, ça n'a rien à voir avec un rapatriement en Irak, et je ne crois pas que ce soit véritablement souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que ces enfants et leur maman, le cas échéant, puissent être rapatriés en France et être accueillis dans des, pour les mamans judiciarisées évidemment, et pour les enfants qui ont été exposés à des violences et à une brutalité sans équivalent, qui puissent être prises en charge par les services dédiés.
Nathalie, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui. Pour revenir au régime syrien, vous avez rencontré récemment, ou peut-être plusieurs fois, Ahmed El-Shara, le nouveau chef. Qu'est-ce que vous en pensez sur le fond ? Est-ce qu'il fait des efforts de com pour l'Occident et pour nous faire et nous montrer tout ce qu'on a envie de voir ? Ou est-ce que sur le fond, il est resté l'ancien djihadiste, plus policé certes, qu'il était auparavant ? Je rappelle que quand vous y êtes allé avec votre homologue allemande, qui se trouvait une femme, il ne lui a pas serré la main.
Ça avait fait beaucoup parler à l'époque.
C'est une coutume.
Nous avons accueilli jeudi à Paris une conférence que le président de la République a clôturée, consacrée à l'avenir de la Syrie, à laquelle ont participé les pays arabes, dont la Syrie, les pays du G7 également, et le ministre des Affaires étrangères syrien. Ça a été l'occasion pour ces pays qui souhaitent que la Syrie réussisse, qu'elle redevienne un foyer de stabilité dans la région, d'exprimer leurs attentes fortes. Notre attente en particulier, c'est la lutte sans relâche contre le terrorisme islamiste de Daesh. C'est la protection des prisons dans le nord-est du pays, qui aujourd'hui sont peuplées de dizaines de milliers de combattants terroristes que nous ne voulons pas voir se disséminer dans la nature.
Et donc le combat qui mène là,
c'est
donc,
aussi et le quand respect ça veut... des minorités.
Alors non, on ne parle pas de minorité en Syrie. L'objectif, c'est une citoyenneté pleine et entière à laquelle toutes les Syriennes et les Syriens peuvent accéder. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que nous avons une attente extrêmement forte qui touche à nos intérêts de sécurité. Et c'est ce que nous avons exprimé aux autorités. Mais j'ai profité de cette conférence que nous accueillons pour rassembler à Paris les représentants de la société civile, justement. Toutes celles et ceux qui aspirent aujourd'hui à une citoyenneté unifiée pour la Syrie.
Et alors ?
Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit que c'était la première fois depuis des décennies qu'ils pouvaient échanger librement avec le gouvernement de leur pays et qu'ils souhaitaient à ce gouvernement, même si eux aussi ont des attentes, le plein succès. Le succès le plus important possible.
Tout le monde, si c'est dans les règles.
Non, vous pourriez avoir une société civile extrêmement méfiante de ces autorités de transition. À ce stade, elles considèrent qu'elles sont légitimes. Et que cette légitimité doit désormais s'ancrer dans des décisions qui concrétisent les propos...
Comme des élections
Des élections, ou en tout cas, lors de la formation du gouvernement, une représentativité qui donne toute la légitimité au gouvernement pour agir, mais aussi, en matière de lutte contre le terrorisme, une attention toute particulière, etc.
Allez, autre image de la semaine. La vôtre, Nathalie Segone, celle de Richard Ferrand, un très proche d'Emmanuel Macron.
J'ai effectivement choisi l'image d'un ancien président de l'Assemblée nationale, qu'on voit ici au perchoir, et qu'Emmanuel Macron envisage de nommer à la présidence du Conseil constitutionnel. Les députés et sénateurs des commissions des lois devront mercredi confirmer ce choix ou pas. D'habitude, ce vote des assemblées est une simple formalité, mais pas cette fois. Parce que Richard Ferrand, est le plus fidèle lieutenant, vous l'avez dit, d'Emmanuel Macron, ce qui pose la question de son impartialité. 2, il n'est pas un spécialiste du droit. 3, l'affaire des mutuelles de Bretagne, qui s'est soldée par un classement sans suite, a laissé des traces. La communauté des constitutionnalistes est en ébullition. Alors que notre démocratie est en danger, Richard Ferrand, disent-ils, risque d'affaiblir la crédibilité et donc l'autorité du Conseil constitutionnel dans un moment où nous pourrions en avoir absolument besoin pour défendre l'état de droit.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Noël Barrot ? Est-ce qu'il est suffisamment impartial, pour reprendre les mots de Nathalie Segone, Richard Ferrand, c'est la bonne personne ou pas, bon profil ?
Bien sûr que c'est la bonne personne. Je suis un petit peu étonné de ces débats. Je considère pour ma part que Richard Ferrand dispose de toutes les qualités, de toute l'expérience nécessaire pour exercer cette fonction. Je ne crois pas qu'on puisse douter rétrospectivement de l'intégrité de Badinter, qui avait été nommé par Mitterrand, de Jean-Louis Debré, qui avait été nommé par Jacques Chirac. Et je constate que les deux derniers présidents du Conseil constitutionnel avaient été présidents de l'Assemblée nationale, comme Richard Ferrand. Je vois pas très bien où est le problème.
Le problème, il a été rappelé par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ce matin dans la presse, qui dit Richard Ferrand avait appelé à un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce que du coup, c'est pas
gênant.
Alors, du point de vue d'un législateur, c'est quelque chose qui est tout à fait, qui peut poser une question politique. Quand on est député, et a fortiori quand on est président de l'Assemblée nationale, et qu'on fait des propositions, ça peut créer une opposition, je le comprends parfaitement. La fonction...
Non, mais c'est deux mandats, en France. Dans la Constitution, c'est deux mandats. Là, il propose un troisième mandat.
Mais justement, c'est pas le Conseil constitutionnel qui change la Constitution. Mmh. C'est le Parlement qui change la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'a qu'une gomme. Il n'a pas de crayon, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne peut rien ajouter.
Oui,
il ne peut que gommer des lois qui auraient été adoptées par le Parlement, qui seraient contraires au texte fondamental qu'est notre Constitution.
Mais pour vous, ça passe ou pas ? Il sera effectivement...
Je le souhaite vivement. Et je pense que c'est à nouveau la personne qu'il faut au Conseil constitutionnel, la bonne personne au bon endroit.
Juste pour rappel, les anciens présidents de l'Assemblée nationale ne sont pas de droit membres du Conseil constitutionnel.
Non, mais il se trouve que les deux derniers présidents, Jean-Louis Debré et Monsieur Fabius.
Laurent Fabius n'était pas un proche de François Hollande.
Mais il était président de l'Assemblée nationale.
Oui.
Ce qui montre que les précédents présidents de la République ont eux aussi estimé qu'à la tête de cette institution centrale dans notre vie démocratique, eh bien, un président de l'Assemblée nationale pouvait apporter beaucoup. Et s'agissant de Laurent Fabius, comme de Jean-Louis Debré, je considère qu'ils ont beaucoup apporté à notre vie démocratique.
Sans compter Roland Dumas, qui n'était pas forcément...
Allez, on va pas refaire toute l'histoire de la Ve République. Dernière image, il faut qu'on avance, qui a beaucoup marqué cette semaine, celle de Louise.
Moi,
11 ans, retrouvée morte dans les bois.
C'est pas une image politique, c'est pas un édito, c'est juste pour rendre hommage à cette petite fille, à ses parents, rendre hommage, ou plus exactement, leur adresser un message de soutien. On pourra pas dire cette fois-ci que c'est par manque de moyens qu'il lui est arrivé ça, parce qu'il n'y avait pas assez de policiers. On pourra pas dire que c'est un règlement de compte en banlieue. On pourra pas dire que c'est le narcotrafic. On pourra pas trouver d'explication. Les parents n'étaient d'un milieu plutôt bourgeois, plutôt aisé, qui a priori, mais on ne sait jamais, rentré dans l'intimité des familles qui n'avaient pas de lourds problèmes de vie. Et juste pour dire que, alors tout le monde glose sur la violence de la société, très bien. Je voulais juste savoir, dire que peut-être elle commence avec les mots MOTS qui ont l'air de sous-estimer la gravité. J'ai lu et j'ai entendu que le jeune homme qui l'avait tué avait pété les plombs. Il a dit lui-même qu'il était sorti pour racketter, comme si c'était aller acheter une baguette. Après il est rentré, il a dit j'ai fait une grosse connerie. Et puis, voyez, je pense que la banalisation des choses commence par le vocabulaire. Alors on aura le débat sur les jeux vidéo, on aura le débat sur la violence. Je suis pas sûr que ce soit pire que dans le temps. Simplement dans le temps, on ne le savait pas, forcément. Mais probablement, le retour de la tragédie, y compris dans le volet vocabulaire, et que tout mot ne se vaut pas, ça serait peut-être quelque chose de bien qui serait probablement utile. Voilà, c'était...
Le coup de cœur.
Oui, parce qu'on ne peut pas être que dans une bulle politique, alors que c'est pas simplement un fait divers, et que ça a été regardé, la conférence du procureur, par des millions de gens qui s'intéressent assez à ça, et pas par voyeurisme.
Tout ce que je devais faire quand j'étais ministre, et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Mais un culpa, ça veut dire c'est ma faute. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Cette inspection a été conduite jusqu'à son terme, et pour le reste, des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler, et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui.
Voilà, là aussi, c'est une image marquante, celle de François Bayrou, hier, à sa mairie de Pau, où il a reçu et où il a écouté surtout le collectif des victimes de Notre-Dame de Bétarame, cette école privée béarnaise contre laquelle plus d'une centaine de plaintes pour agressions physiques et sexuelles ont été déposées. Le Premier ministre est sorti visiblement marqué par cette discussion. Il l'a lui-même dit qu'il était bouleversé. Jean-Noël Barrot, vous êtes vice-président du Modem, vous êtes un proche du Premier ministre. Est-ce que François Bayrou, est tiré d'affaire avec les mots qu'il a utilisés, avec les mesures qu'il a annoncées ? Est-ce qu'il a été suffisamment convaincant ? Est-ce que c'est la fin de la polémique ?
D'abord, François Bayrou a été bouleversé, vous avez raison de le dire, et de très nombreuses Françaises, de très nombreux Français ont été bouleversés également, et s'associent à à la peine très profonde et en quelque sorte presque irréparable des familles des victimes. Et je veux, moi, avoir une pensée pour les victimes de ces sévices sexuels, de ces viols abominables. J'ai entendu aussi Alain Esquer, le porte-parole du collectif des victimes, et je souhaite que justice soit rendue chaque fois que ça sera possible et qu'une réparation puisse être apportée. Et François Bayrou a donné des assurances hier aux victimes et leurs familles.
Donc il est sorti d'affaire ou pas? C'est la fin de
François
la
Bayrou, il est allé, et c'est un geste d'humanité, rencontrer ces familles, écouter leurs témoignages, prendre des engagements. Je pense que c'était la bonne chose à faire et je salue le fait qu'il y consacrait beaucoup de son temps et de son attention. Maintenant, je regrette que la souffrance des victimes soit aujourd'hui utilisée à des fins politiques pour essayer de monter de toutes pièces un scandale pour semer le chaos. C'est assez indigne de la souffrance et du calvaire.
C'est indigne, mais finalement, pour ceux qui critiquent sans arrêt Mediapart ou qui disent qu'ils sont là pour aller déstabiliser le pouvoir, est-ce que c'est pas aberrant qu'on en arrive à ce que, grâce à Mediapart, on puisse enquêter, que grâce à Mediapart, on puisse se pencher sur ce genre de sujet? C'est quelque chose qui, démocratiquement, n'est pas... pas souhaitable. Enfin, on devrait faire le travail nous-mêmes.
La procédure judiciaire a commencé avant que les articles de Mediapart ne sortent,
bien
si
sûr.
Ma mémoire est bonne. Donc,
puisque maintenant, on va essayer, puisque est-ce la prescription fait qu'on doit trouver un autre chemin pour indemniser et pour soigner, pour réparer, ça veut bien dire qu'il y a eu une chape de plomb sur...
Mais c'est tout l'intérêt d'avoir une presse libre et indépendante qui permet d'attirer l'attention de l'opinion publique sur certains problèmes qui ne peuvent être parfois qu'imparfaitement traité par la justice. Et l'attention que François Bayrou a accordée aux victimes et à leurs familles, les engagements qu'il a pris, vont permettre de faire avancer la cause.
Alors, il dit quand même que sa fille lui a parlé de gifles données dans l'établissement. On ne va pas refaire toute la conférence de presse d'hier, mais il dit quand même qu'il était au courant. Or, tout l'objet de la polémique, c'est justement ça, c'est de dire qu'il a menti, il n'a pas dit tout ce qu'il savait. Donc, il savait des choses ou pas ?
Lorsque François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale, il y a effectivement eu un fait, une gifle qui a été signalée.
En 1996, est-ce qu'il a fait l'objet d'un rapport d'inspection ?
Ce qui a conduit à ce qu'un rapport d'inspection soit rédigé, qui dit très clairement, je l'ai lu, qui dit très clairement, Notre-Dame de Bétaram n'est pas un établissement dans lequel les élèves sont brutalisés. Mmh. Et je crois citer in extenso la conclusion de ce rapport. Ensuite, un peu plus tard, en 98, cette fois-ci, des faits de sévices sexuels et de viols ont été signalés. Une procédure a été enclenchée à l'époque, mais on ne peut pas attraire la responsabilité de François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, alors qu'il ne l'était plus. C'est alors peut-être au responsable ministériel de l'époque.
Mais c'est pas ça la question qu'il lui a posée. C'est le fait qu'il ait dit devant la représentation nationale. C'est le fait qu'il ait dit devant la représentation nationale. Je ne savais rien, absolument rien, de cette affaire.
Vous avez d'un côté des sévices sexuels et des viols par dizaines, jusqu'à 112, et de l'autre un incident avec une gifle qui a été donnée par un CPE à un élève. La question qui était posée à l'Assemblée nationale, c'est celle qui concerne les sévices sexuels et les viols, et qui sont intervenus, qui n'ont été signalés qu'après le départ du ministère de l'Éducation nationale de François Bayrou. Donc, si vraiment...
Donc il n'a pas menti.
Si la question que vous vous posez, c'est de savoir si le gouvernement de la France a réagi convenablement à ces signalements, alors c'est aux responsables des départements ministériels concernés à l'époque qu'il faut poser la question, pas à François Bayrou.
Est-ce que cette crise politique, en tout cas c'est le sentiment qu'on a vécu cette semaine, est-ce qu'elle est terminée ou est-ce que la motion de censure que le PS doit déposer cette semaine, mercredi, risque encore de faire chahuter ce gouvernement et peut-être même de le faire tomber?
Bon, d'abord, on a eu 6 motions de censure en 6 semaines et je regrette qu'on s'installe progressivement dans une vie politique où on a le choix entre mettre le doigt sur la couture du pantalon ou alors déposer systématiquement des motions de censure. Il y a beaucoup d'autres manières de s'opposer ou de faire entendre sa voix et ses exigences que de déposer une motion de censure.
Mais vous êtes inquiet ou pas sur cette motion ?
Ensuite, nous sommes tous co-responsables positivement, j'allais dire, d'avoir réussi à faire sortir le pays d'une phase de grande instabilité qui commençait à nous causer beaucoup de tort, parce que d'abord un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées ne pouvaient pas entrer en vigueur pour les Françaises et les Français, et puis je l'ai pu le mesurer à mon niveau, à l'international, cette instabilité commençait à coûter très cher à l'image de la France. Nous avons réussi à adopter un budget. Maintenant, encore faut-il un gouvernement pour le mettre en œuvre. Cette censure, si elle était adoptée, nous ferait replonger dans l'instabilité. Et donc, je crois, si elle peut être évitée, qu'il serait bon qu'elle le soit. Et à défaut que chacun se montre responsable, nous sommes sortis d'une période de grande instabilité. Mmh. Il faut maintenant se mettre au travail au service des Français. Ça ne veut pas dire la compromission. Ça ne veut pas dire diluer son identité.
Ça ne veut pas dire la paralysie.
Ça ne veut pas dire la paralysie.
Ok, une question de Nathalie Segouin.
Est-ce que ça fait quand même pas beaucoup d'improvisation et d'erreurs stratégiques de la part de François Bayrou depuis deux mois ? Il met quand même une semaine à mesurer, à prendre la mesure de l'extrême sensibilité de cette affaire, à s'impliquer, à recevoir les familles des victimes. Il a mis du temps sur Mayotte aussi. À chaque fois, il y a un énorme décalage entre l'actualité, en fait, et François Bayrou. Et il laisse installer et pourrir des questions. Est-ce que ce n'est pas problématique à la longue ?
Bon, vous revenez sur le cas de Notre-Dame de Bétharram, et je vous le redis, François Bayrou a été d'une très grande sincérité et d'une très grande humanité dans le traitement de cette affaire, et je ne peux que m'en réjouir. Ensuite, si vous attendez de François Bayrou plus généralement qu'il s'impose le rythme incessant des chaînes de télévision en continu ou des réseaux sociaux, vous pouvez attendre longtemps. Parce que François Bayrou a son propre rythme pour atteindre les objectifs qu'il se fixe, et notamment ceux de réintroduire un peu de débat et de pluralisme dans notre vie démocratique. Mmh. Et il n'entend pas se plier aux exigences de la communication instantanée.
Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, notre invité ce dimanche dans Questions politiques. J'aimerais qu'on revienne à présent à cet incroyable discours, vendredi après-midi, il y a deux jours, à l'occasion de la 61e conférence sur la sécurité de Munich, le discours du vice-président américain, J.D. Vance, d'une violence inouïe contre l'Europe, contre la démocratie, contre les valeurs de liberté républicaine. On écoute d'abord un extrait, si vous voulez bien, de ce discours extrêmement virulent.
La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur, celle du retrait de l'Europe de certaines de ses valeurs fondamentales, valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique.
Jean-Noël Barrot, vous êtes le chef de la diplomatie française. Nous sommes l'un des deux pays les plus importants de l'Union européenne avec l'Allemagne. Vous lui répondiez quoi ? Au vice-président américain, là.
Oh, vous savez, je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit
à lui dire,
à lui répondre.
Ah bon ?
Bah, pourquoi vous êtes senti interpellé ? Pas moi. Vous savez, nous avons une conception très claire de ce que c'est que la liberté d'expression. Et nous en héritons des révolutionnaires de 1789.
Les Allemands ont dit que c'était insupportable, ouais, ce qu'ils avaient entendu.
Ne mélangeons pas tout. Vous me passez un message sur la liberté d'expression. Je vous dis que dans ce domaine, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et il est vrai que le modèle américains, d'autres modèles du monde sont différents du nôtre. Mais qu'ont dit les révolutionnaires de 1789 ? Ils ont dit la libre communication des pensées et des opinions est l'un des biens les plus précieux de l'homme. Et que tout citoyen peut librement parler, écrire et imprimer, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas qui sont prévus par la loi. Mmh. Les révolutionnaires de 1789 ont fixé des bornes la liberté d'expression. Pourquoi ? Pour que la liberté d'expression ne devienne pas la liberté du plus fort, la liberté de celui qui parle le plus fort. Et c'est pourquoi, en France, il est interdit de se rendre coupable de diffamation, d'injure publique, d'apologie du terrorisme.
Donc on les laisse parler, en fait. C'est pas très grave, on se dit que la loi est là pour nous protéger.
Non, on dit simplement que, moi j'ai un modèle auquel je tiens, l'équité du temps de parole dans les campagnes électorales.
Enfin, il n'a pas parlé
de
ça.
Non, les règles de financement des campagnes, voilà comment je m'assure d'avoir un débat public qui est pluraliste et qui permet à chacun de faire entendre sa voix. Si d'autres ont d'autres modèles,
c'est pas le voisin de palier qui a dit ça, c'est le vice-président des États-Unis et il ne parle pas que d'égalité, du droit d'expression.
Il faut se défaire des complexes d'infériorité, Nathalie Saint-Cric.
Il rencontre Alice Weidel, qui est la chef de le mouvement d'extrême droite. Il
vous
donne des leçons
sur,
comme si on était des woke, des tarés absolus, comme si on ouvrait les portes de l'immigration, qu'on était des dangers publics. Et tout ça, Il y a un moment donné, et d'ailleurs, Monsieur Pistorius,
le ministre de la Défense allemande
lui a répondu avec beaucoup de violence en disant mais c'est insupportable.
À un moment donné, il faut quand même la stopper. Là,
Vous mélangez les sujets. Vous me parlez de la liberté d'expression. Je vous ai répondu. J'ai un modèle, j'y tiens. Je ne l'impose pas aux autres, mais je n'accepte pas que d'autres puissent espérer pouvoir imposer le leur en Europe. Ensuite, vous me parlez des liens entre le vice-président américain et le parti allemand de l'AFD, qui est un parti d'ultra-droite qui flirte avec les thèses néo-nazies.
Oui.
Ça, c'est évidemment inacceptable, mais à nouveau, et c'est une question qui se pose aux États-Unis, puisque J.D. Vance, quand il va, frayer avec les responsables de l'AFD, qu'est-ce qu'on fait des 400 000 soldats américains qui sont allés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donner leur vie, perdre leur vie, contre le nazisme et contre cette idéologie mortifère. Il y a une sorte de confusion, mais c'est une question qui appartient aux États-Unis.
Je me fais des soucis pour l'Europe.
Attendez,
s'ils financent les partis comme l'AFD, ou s'ils financent d'autres partis comme en Hongrie, s'il y a une immixtion dans les élections, même françaises, via Elon Musk et tout ça, c'est pas une histoire des États-Unis, c'est une histoire de l'Europe.
Exactement. Et c'est pourquoi... Non mais, je vous le redis, je pense que le discours de J.D. Vance sur la liberté d'expression, ses liens avec un parti d'ultra-droite qui flirte avec l'idéologie nazie, c'est une question assez vertigineuse qui se pose aux États-Unis, pas à l'Europe, parce que nous n'allons pas changer nos modèles, notre modèle sous la pression. Non, précisément parce que nous considérons que le débat public doit être protégé et nous n'accepterons pas les ingérences.
Alors je pose la question différemment.
Et quelles que soient les formes qu'elle prend.
Quel regard aujourd'hui vous portez sur les États-Unis ? Est-ce qu'elle est encore la première grande démocratie occidentale ?
Nos alliés.
Et donc, j'allais y venir, nos alliés.
Ce sont nos alliés.
Non, alors, juste avant, est-ce que vous considérez encore que c'est une grande démocratie occidentale ?
C'est une grande démocratie.
Là, avec les propos qui sont tenus, c'est encore une démocratie.
Bien sûr que c'est
pas changé de monde, là.
Bien sûr que c'est une démocratie, mais je veux pas, à mon tour, m'immiscer dans les affaires américaines. Tout ce que je dis, c'est que ce qui se passe aux États-Unis dans la politique intérieure, dans la vie institutionnelle et démocratique, appartient aux Européens, et que quant à nous, nous ne devons pas nous laisser intimider, ni d'ailleurs laisser des Américains ou d'autres s'ingérer dans notre débat public. Nous avons une conception qui est propre de ce que c'est que le débat public, la démocratie, les campagnes électorales, etc. Et nous le protégerons parce que c'est un pilier fondamental de ce que nous sommes et de notre identité.
Ils sont encore nos amis ou pas, les Américains ?
Ne nous laissons pas intimider parce que d'autres grandes puissances ont des modèles différents. Ils ne parviendront pas à nous les imposer.
Nathalie Segonne.
Vous dites qu'il ne faut pas se laisser intimider, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer d'amadouer Trump, par exemple en lui achetant des armes, un peu comme le dit Stéphane Séjourné, ou est-ce qu'il faut faire preuve de fermeté à son égard ?
À nouveau, ça dépend de l'objectif que vous poursuivez. S'agissant de notre vie démocratique, je n'ai rien à demander aux États-Unis, ni aux Chinois, ni aux Russes d'ailleurs. Nous protégerons notre démocratie et notre débat public. Ce sont nos biens les plus précieux. Et même s'ils sont fragiles, nous les défendrons ardemment. Ensuite, si vous voulez, nous pouvons parler de l'Ukraine. Et là, nous avons, parce que nous sommes alliés avec les États-Unis, au sein de l'OTAN, depuis 75 ans, des intérêts très convergents.
Alors attendez, justement, l'Ukraine, on va en parler.
Et donc
parce
là,
que...
on doit les engager, et on doit discuter avec eux, et on doit se répartir les rôles, d'accord, pour atteindre le même objectif, la sécurité du continent européen, et donc la sécurité de l'Atlantique Nord et donc la sécurité des États-Unis.
Alors justement, la première question quand même qui se pose là sur le dossier ukrainien, c'est est-ce que vous confirmez que la France, demain, réunit à Paris tous ses partenaires européens pour parler de l'Ukraine à l'occasion d'un sommet ? Oui ou non ? Parce que pour l'instant, il n'est pas confirmé ce sommet. Donald Tusk, c'est le Polonais, le Premier ministre polonais qu'on a parlé, mais l'Élysée ne confirme pas.
Non, c'est le ministre des Affaires étrangères polonais qui l'a évoqué hier, j'étais à ses côtés, quasiment tous les jours de la semaine dernière, puisque j'ai moi-même réuni à Paris, mercredi dernier, les principaux pays européens pour discuter de notre sécurité, de notre effort de soutien à l'Ukraine et de la manière dont nous abordons les questions de la résolution de la crise. Et c'est dans ce même esprit que le président de la République réunira les principaux pays européens
demain
pour
demain,
une discussion
pour confirmer.
pour des discussions portant sur la sécurité européenne. Mais ce sont des discussions qui n'ont pas attendu, si je puis dire, ni ce week-end, ni les déclarations des uns et des autres, puisque je vous dis que mercredi dernier encore, oui. Les Européens étaient à Paris
pour aborder
tous ces sujets.
Mais là, je comprends pas. C'est une réunion très formelle. C'est un sommet comme...
C'est une réunion de travail.
D'accord. Et il y a qui autour de la table ? Tous les États européens seront présents, sont représentés ou pas ?
Les confirmations sont en train d'affluer. Je ne veux pas vous faire de
c'est quoi, c'est vos homologues,
compte rendu
exhaustif. Quel est l'échelon,
oui, voilà, c'est vos homologues.
C'est chef d'État et de gouvernement. Ah. Mais je pense qu'il faut, si vous voulez, il ne faut pas dramatiser ce type de réunions parce qu'elles sont très fréquentes. Regardez, hier j'étais à Munich, j'ai eu au moins 3 réunions avec mes homologues européens des principaux pays. Nous sommes en contact constant. Et nous échangeons, lorsque nous ne sommes pas au même endroit, au même moment, par téléphone constamment.
On ne s'en rend pas compte, parce qu'on a l'impression que l'Europe, en fait, on ne l'entend pas,
du
pas
tout.
En ce moment.
Pas du tout, au contraire. Il y a un vent d'unité qui souffle sur l'Europe, tel qu'on ne l'avait peut-être pas ressenti depuis la période Covid.
Donc, bon, heureusement que vous nous le dites, parce qu'on ne s'en est pas rendu compte. Alors, Nathalie Saint-Christ.
Et pourtant, les Européens étaient réunis, unis, mercredi dernier à Paris, ils l'étaient ce week-end à Munich, et ils le seront...
Mais à Munich, on entend les Belges, en fait. On n'a pas entendu les Européens.
À Munich, bien nommé. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. On a entendu qu'il y avait eu un coup de fil entre Trump et Poutine en début de semaine. On a entendu les Européens qui disaient, en gros, on voudrait bien en faire partie, enfin, être dans le jeu. Et on a entendu également qu'il n'en était pas question.
Non.
On a entendu la France, on a entendu Zelensky à qui on demandait pas non plus son avis. Il y a eu une interview qui m'a frappée dans le Wall Street Journal vendredi, où M. Vance toujours a dit, je pense qu'il va ressortir de ça un accord qui va choquer beaucoup de monde. On en est où de notre participation, du minimum qui serait de demander à l'Ukraine ce qu'elle en pense, parce que on est quand même dans un monde, normalement il y a une souveraineté des États. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des négociations? On a vu par ailleurs hier que M. Zelensky refusait le troc qui pouvait y avoir.
C'est-à-dire, on va en parler.
On va en parler tout à l'heure, plus précisément, pour pas tout mélanger. Ce matin, on en est où exactement et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui s'inquiètent?
Il faut garder son sang-froid et il ne faut pas se laisser emporter, intimider par les déclarations qu'on entend à droite comme à gauche. Il y a une répartition des rôles et je vais y venir. Mais quelle est la situation ? La situation, elle est implacable, ou en tout cas l'analyse est implacable.
C'est-à-dire ?
Seuls les Ukrainiens peuvent décider d'arrêter de combattre. Et d'ailleurs, nous les soutiendrons tant qu'ils n'auront pas pris cette décision.
Sauf qu'ils n'ont pas d'armes.
Non, nous les soutiendrons tant qu'ils n'auront pas pris cette décision. Les Ukrainiens n'arrêteront jamais de combattre tant qu'ils ne seront pas sûrs que la paix qui leur est proposée sera durable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà soupé. Il y a 10 ans, jour pour jour, à une semaine près, on a signé des accords qui ont permis un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Cessez-le-feu qui a été violé 20 fois et qui a conduit à la reprise des hostilités à grande échelle cette fois-ci, le 24 février 2022. Donc ils n'arrêteront que lorsqu'ils auront la certitude d'avoir suffisamment de garanties entourant cette paix. Qui apportera ces garanties ? Ce seront les Européens. Et donc, que l'on le,
donc
qu'on
vous
le veuille ou non,
qu'on
le veuille ou non, ce seront les Ukrainiens qui décideront d'arrêter de combattre et on les soutiendra tant qu'ils le combattront. Ils ne le feront que lorsqu'ils auront la certitude que leur sécurité est assurée et ce seront les Européens qui apporteront cette sécurité. Donc, force est de constater que, oui, les Européens seront associés d'une manière ou d'une autre à ces discussions.
Quand vous dites
maintenant, la répartition des rôles.
Oui.
Les Européens, je l'ai dit, et il faut nous y préparer. C'est pour ça qu'on multiplie les contacts. C'est pour ça qu'il y a un vent d'unité qui souffle aujourd'hui sur l'Europe. Devront apporter ces garanties de sécurité pour éviter que la guerre ne reprenne quelques semaines ou mois après un premier cessez-le-feu. Quel est le rôle des États-Unis ? Le rôle des États-Unis, et on espérait que l'administration précédente puisse jouer ce rôle, c'est de forcer... ou en tout cas d'amener Vladimir Poutine, qui jusqu'à présent n'a montré aucun signe dans ce sens, à négocier. Amener l'agresseur à négocier.
Donc là, vous êtes satisfait finalement de Trump, qui a réussi à pousser Poutine à discuter ?
Nous, les Européens, on y contribue aussi un peu, parce qu'on met maximum de pression, avec des sanctions notamment, et en finançant les Ukrainiens, sur la Russie. Les États-Unis se sont dotés d'une nouvelle administration, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus de 3 semaines. Qui a compris que son rôle, c'était d'amener Vladimir Poutine à la table des négociations, et qui, pour l'instant, se dit, je vais y arriver par un mix, si je puis dire, de pression, je te force à y aller,
et de détente,
et de dialogue, je te convainc d'y aller. Nous, ça fait longtemps qu'on a arrêté de dialoguer parce que ça fait longtemps qu'on a compris que seule la pression serait susceptible d'amener.
Ça fait longtemps, on a essayé comme
les États-Unis ont décidé d'activer les deux leviers. Okay. À mon avis, même si je ne veux pas faire de politique fiction, ils vont rapidement comprendre que seule la pression sera susceptible d'amener Vladimir Poutine à la table des négociations.
Alors juste une précision, et puis après j'arrête pour que tout le monde comprenne bien.
N'arrêtez
quand
pas.
Vous dites qu'il faut l'amener à négocier, est-ce que c'est négocier, on est prêt? La position de la France, c'est il peut garder la Crimée, tout ce qu'il a conquis, et on arrête. Simplement, on lui empêche d'aller encore un peu plus loin. Ou est-ce que notre position à nous va jusqu'à la restitution de la Crimée et l'évacuation
des 18% de territoires qui aujourd'hui, effectivement, sont sous...
Depuis le début de la guerre. En gros,
la domination c'est,
on négocie sur un statu quo d'aujourd'hui ou alors on repart à la situation ante avant la première agression des Russes.
Alors.
C'est une excellente question, mais nous n'avons pas de position précise sur, sur les volets territoriaux puisque nous disons c'est aux Ukrainiens de décider souverainement de ce type de compromis qu'ils sont prêts à faire. En revanche, ils ne feront ces compromis, j'y reviens, que s'ils sont sûrs que cette fois-ci, c'est fini la guerre. Et nous, on les soutient très fortement dans cette aspiration-là, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois que la guerre a repris, elle s'est déplacée un peu plus proche de nos frontières, que la ligne de front s'est rapprochée de nous. Et nous, on veut que ça s'arrête, parce que chaque année qui passe, chaque fois que la Russie gagne un kilomètre carré, c'est la guerre qui se rapproche un peu plus du territoire européen. Et la guerre, nous n'en voulons pas.
Alors c'est quand même un peu surprenant ce que vous êtes en train d'expliquer, Jean-Noël Barrot, parce que je reviens sur ce que disait Nathalie Saint-Cricq. On a appris hier que Zelensky, le président ukrainien, avait refusé un accord avec les États-Unis sur ces minerais ukrainiens.
Mais c'est tout à fait cohérent. Non,
mais oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même des deals en ce moment. Il y a des discussions qui ont lieu entre Zelensky et Trump ou son entourage et qu'il est prêt à dealer une partie de ses territoires, en tout cas de ses terres rares, de ses ressources rares.
Alors, je vais être encore plus clair. À ce stade, il n'y a pas de négociation. Parce que c'est...
D'accord, il a dit qu'il refusait un truc qu'on lui a proposé.
À ce stade, il
n'y
a pas de négociation tout court. Mmh. Pourquoi ? Parce que pour l'instant... Vladimir Poutine, malgré des déclarations un peu récentes et sans doute un peu déformées, n'a pas montré de volonté de négocier. Et c'est tout l'objectif des États-Unis de dire « je vais t'entraîner ou te convaincre ou te forcer à venir à table des négociations ». Pourquoi les Ukrainiens ont refusé l'accord qui leur a été proposé par les États-Unis ? Qui n'est pas un accord qui va régler le problème de la guerre, qui est un accord par lequel les États-Unis essayaient de dire la chose suivante. J'ai beaucoup dépensé pour vous soutenir depuis 3 ans, maintenant, j'aimerais bien me rembourser sur vos ressources naturelles.
C'est ça.
Les Ukrainiens ont dit, non. Si tu me dis que tu souhaites accéder à certaines de mes ressources naturelles en contrepartie d'un soutien aujourd'hui pour mettre la pression sur Vladimir Poutine et ensuite entourer la paix de garanties qui font qu'elle restera en vigueur le plus longtemps possible, alors là, je suis disposé
d'accord.
Mais ce n'est pas du tout ce qui leur a été proposé.
Pourquoi les Européens semblent aussi pris au dépourvu alors que Trump et les Américains ne font que ce qu'ils avaient annoncé, enfin ce que Trump avait annoncé? On a l'impression, quand Scholz dit « nous sommes sous le choc », on a l'impression de qu'ils n'ont pas du tout anticipé ce qui s'est dit ces derniers jours.
Moi je ne suis pas sous le choc, je ne suis pas tellement surpris. Je vois l'accélération de tendance qu'on avait déjà identifiée depuis longtemps, le président de la République en avait quasiment déjà parlé en 2017, bien avant le déclenchement de la guerre, c'est-à-dire en quelque sorte une réorientation stratégique des États-Unis plutôt vers le Pacifique, qui suppose que la sécurité, ce qu'on appelle euro-atlantique, c'est-à-dire l'Europe, l'Atlantique, etc., soit prise en charge de manière beaucoup plus volontariste par les Européens. Et c'est vrai qu'après avoir pris pendant des décennies l'habitude de sous-traiter aux États-Unis la protection du continent, c'est un peu dur de changer nos habitudes. Mais nous, ça fait longtemps qu'on le dit, et on voit que nos amis européens, même ceux qui étaient les plus rétifs à ces idées-là, ils sont en train de se rapprocher de nos positions.
Vous avez dit hier à Munich que les Français allaient devoir, il fallait leur faire admettre qu'ils allaient devoir faire des sacrifices, étant donné le niveau de la menace. Quel est le niveau de la menace ?
Et je maintiens, puisque au moment de notre histoire où nous devons reprendre en main notre sécurité, ça va supposer des efforts financiers. Vous voyez, il y a quelques décennies, on ne dépensait pas 2% comme on le fait aujourd'hui. On a doublé, grâce aux gouvernements successifs, le budget de notre défense. On va devoir aller plus loin que les 2%.
Combien ? 3, 4, 5%. Les États-Unis demandent 4% maintenant.
Les années 50, dans les années 50, on consacrait plus de 5% à notre défense. Aujourd'hui, on va devoir faire plus. Mais La défense nationale.
Vous pouvez quantifier ou pas, vous alignez sur les 4% qui sont demandés.
Mais on s'aligne sur personne d'abord. On fait nos propres choix. Mais on ne regarde pas que la quantité, on regarde aussi la qualité. Mais la défense nationale, elle ne se joue pas seulement dans les dépenses militaires. Elle se joue aussi dans les esprits. Et ma mission, si je puis dire, de ministre des Affaires étrangères, c'est de contribuer au réarmement des esprits, pour que nous nous préparions collectivement à ces efforts que nous devrons faire. Parce que si c'est plusieurs points de PIB, ça supposera des choix courageux.
Allez, les armes, on y reste. Simplement, quelle est la trajectoire des armes livrées par les États-Unis, par la France et par l'Europe? Est-ce que ça va mollir de ce que vous savez?
Ouais. Nous, on continue de tenir nos engagements. Les Mirages français volent désormais dans le ciel ukrainien.
Ça, c'est des vieux engagements, je parle pour l'année à venir.
Pardon, mais ils viennent d'arriver. Je veux bien que la nourriture avalée n'ait plus de saveur, mais enfin, c'est quand même... Ça fait une différence.
La trajectoire européenne.
Les Américains vont poursuivre un certain nombre des engagements qui sont pris.
Un certain nombre, c'est-à-dire...
Je n'ai pas le détail, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que je serais habilité à le révéler, mais ce que les Ukrainiens ont dit ces derniers jours, lors des multiples réunions auxquelles nous avons participé ensemble, c'était plutôt confiant, parce que, comme je le disais, il ne faut pas se méprendre sur l'objectif à l'heure actuelle des États-Unis. Je vois des choses, c'est de faire Yalta, c'est de découper l'Europe et de se la partager avec la Russie et la Chine. N'importe
quoi. La partition, elle n'aura pas lieu.
N'importe quoi. Okay. Leur objectif, c'est d'attraire Vladimir Poutine aux négociations, et ils savent bien, parce qu'ils ont beau être là depuis 3 semaines et demie, c'est quand même pas des perdreaux de l'année, ils savent bien qu'ils y parviendront, en tout cas, ils croient et considèrent qu'ils y parviendront, par la force en même temps que par la persuasion.
Je trouve quand même très optimiste. Mais bon, Jean-Noël Barrot, revenons un instant en France. La question commence déjà à faire débat. 2 ans et demi avant l'élection présidentielle, vous voyez où je veux en venir, débat lancé par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faudra un candidat unique de la droite du centre?
Je crains que 2027 soit encore trop loin des préoccupations des Françaises et des Français pour qu'on y consacre.
Non, mais des Français peut-être, mais des hommes politiques sûrement pas.
Ah, mais vous savez, vous venez de m'interroger, à juste titre, sur l'émotion suscitée par les déclarations de la nouvelle administration américaine, comme si l'avenir de l'Europe se jouait dans les jours qui viennent. Alors, j'ai dit qu'il fallait garder son sang-froid, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur nos gardes et qu'on n'y travaille pas. Pour ma part, entre ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous avons suffisamment à faire pour nous préoccuper de 2020.
Mais raison de plus pour avoir un État fort, avoir un pouvoir fort, une majorité forte et un gouvernement qui peut être qui avoir le leadership sur l'Europe, notamment reconstituer un couple franco-allemand avec qui on ne sait pas, enfin on le saura bientôt.
On verra la semaine prochaine.
Très bon point. C'est-à-dire que l'Allemagne va décider dans quelques jours des nouveaux équilibres, et ça sera l'occasion, ou jamais, si je puis dire, de redémarrer le moteur.
Vous êtes décidément de très levé.
Ouais, très optimiste, c'est ce que j'ai fait ce matin. Mais donc, du coup, ça veut dire quand même que François Bayrou, lui, n'a pas d'ambition par rapport à ce qu'on se disait juste avant.
François Bayrou, il s'est déjà exprimé sur le sujet. Mmh. Il est tout entier à sa tâche. Ensuite, chacun connaît la relation singulière qu'il a nouée au fil des années avec les Français.
S'il y a une primaire sur le socle commun, le MoDem y participe?
Non, vraiment, je crois que c'est encore trop loin des préoccupations des Français pour qu'on y consacre du temps aujourd'hui.
Il y a une petite accélération là quand même dans le débat, on le voit. Est-ce que ça veut dire que les acteurs politiques anticipent une présidentielle avant 2027?
Mais on en a parlé tout à l'heure, François Bayrou ne se laisse pas dicter son rythme. La seule chose qui compte pour lui, c'est d'apporter des réponses.
Est-ce que vous l'interprétez, cette accélération, comme les acteurs...
Une fragilité autour d'Emmanuel Macron.
Je l'interprète anticipée. Comme le symptôme du fait qu'on est sorti d'une période de très forte instabilité. Ce que je signale, c'est qu'on n'est pas encore dans une période de grande stabilité et que notre attention à toutes et tous doit être concentrée sur...
Il faut se préparer quand même, parce que quand Bruno
Retailleau réponse aux réponses des Français.
C'est pas mon maître à penser, mais quand il dit que le macronisme ne survivra pas à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron et qu'il faut revenir à du droit de gauche, vous qui êtes au centre, ça demande peut-être...
Bon, vous savez, famille politique à laquelle appartient et à laquelle appartient François Bayrou, qui en est le président, elle a 100 ans d'existence, donc elle en a vu d'autres.
Petite question subsidiaire, Nicolas Sarkozy, qui porte aujourd'hui un bracelet électronique après sa condamnation dans l'affaire des écoutes, est-ce qu'il doit se voir retirer sa grand-croix de Légion d'honneur? Ce qui en général se fait quand on a écopé d'une peine d'au moins un an de prison ferme.
Je dois confesser que je ne connais pas très bien la mécanique juridique ou le règlement intérieur.
Ouais, c'est le code. C'est le code de la Grande Croix de Légion d'honneur qui veut que quand on a écopé d'une peine de prison ferme d'au moins un an, on doit se voir retirer. Bah,
les codes sont faits pour être appliqués. D'un autre côté, est-ce qu'il faut vraiment la double peine ? C'est une question qui mériterait d'être approfondie.
Merci Jean-Noël Barraud. Vous restez avec nous évidemment, il est temps d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karim Bécard.
Bonjour Karim El Karoui.
Bonjour, attention, c'est Hakim.
Hakim, qu'est-ce que j'ai dit ?
Karim.
Mais non, en plus j'ai écrit Hakim, pardonnez-moi mille fois. Merci de nous avoir rejoints en tout cas sur le plateau de questions politiques. Vous êtes chef d'entreprise et essayiste, ancien conseiller auprès du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et le président actuellement du Club 21e siècle. Vous venez de publier aux éditions Les Petits Matins un livre consacré à Marine Le Pen. Son titre, Marine Le Pen, présidente, dystopie politique 2026-2029. Vous êtes l'un des trois auteurs de ce livre, puisque vous l'avez coécrit avec Thierry Pêche et Guillaume Anezot. Alors, qu'est-ce qu'une dystopie politique ? C'est de la politique fiction, c'est de la politique qui n'existe pas, c'est un récit imaginé qui raconte un monde utopique et souvent pas très optimiste, plutôt pessimiste, plutôt sombre. Hakim El Karoui, pourquoi ce livre ? Pourquoi anticiper l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée ? Est-ce que vous avez envie de faire peur aux électeurs ?
Non, pas de faire peur, d'essayer d'imaginer ce qui va se passer. C'est une possibilité aujourd'hui. Hier, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est devenu possible, peut-être même probable. Et au mois de juin, pendant les élections, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui va se passer. Et il y a eu une mobilisation très importante, parce que peut-être que les gens se sont rendus compte que s'ils ne s'occupaient pas de politique, la politique allait s'occuper d'eux. Oui, mais comment ? Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'imaginer, sur la base du programme du Rassemblement National, sur la base aussi du contexte, ce qui allait se passer sans être moralisateur et sans essayer de faire des effets de manche, vous voyez, du catastrophisme. Donc on a essayé d'être assez franc, assez froid, tout en rigolant un peu.
Alors voilà, c'est quand même assez souriant, je crois qu'on peut présenter les choses comme ça. Vous imaginez une arrivée au pouvoir sans contestation et sans émeute, assez tranquille, assez paisible, à la tête du pays. Donc on trouve l'union des droites, on a Laurent Wauquiez comme Premier ministre dans votre dystopie, on a Jordan Bardella au ministère de l'Intérieur, à la culture Éric Zemmour. Les premiers mois dans votre dystopie toujours, tout se passe bien. Et puis ça va très vite déraper avec une mesure phare du programme du Rassemblement National, c'est l'interdiction du voile dans l'espace public. Et là, pour vous, le pays peut s'embraser.
Oui, alors ça a été précédé par la mise en œuvre de ce qui est le cœur du programme du Rassemblement National, c'est-à-dire la préférence nationale, avec des différences qui sont faites entre les Français, puisque les binationaux ne peuvent plus accéder à un certain nombre de postes. Vous vous souvenez, au mois de juin, c'était un débat, avec des différences entre les Français et les étrangers sur un certain nombre de droits, et puis avec la remise en cause d'un certain nombre de libertés fondamentales. Et on a remis en cause la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que, par une simple loi, on peut dire, sur ce thème, c'est la loi française qui s'impose à la loi européenne. Et là-dedans, il y a un discours sur « il faut que l'État préserve le mode de vie des Français ». Le mode de vie des Français, il n'est jamais défini. En fait, il est défini en contre. Et donc, dans le contre, il y a cette idée que le voile, ou tout ce qui peut aller dans le sens de l'inégalité entre les hommes et les femmes, doit être interdit. Et nous, on imagine un événement. Un événement, c'est à Champigny, un groupe de copains qui se baladent, et puis il y a un militant à Rassemblement National qui les agresse, parce que dans ce groupe de copains, il y a une fille voilée. Et puis ça dégénère.
Voilà, ça tourne mal. Il y a un tir et la jeune femme voilée est tuée. Et là, ça s'embrase. Le pays est encore capable de se mobiliser.
Alors là, c'est pas une mobilisation politique, c'est plutôt une émotion. Et comme cette jeune femme, elle est juriste, elle est mariée ou son copain est un juif libéral, et que y a un certain nombre de groupes en fait qui s'agrègent et qui disent non, mais ça part très vite, ça part comme partent les émeutes. Puis ils se retrouvent place de la République. Et puis ça monte. Et puis il y a des gens des deux côtés, des deux côtés de l'extrémisme qui sont très contents. De l'ultra-droite, mais aussi de l'ultra-gauche.
Ouais, qui est très
et puis aussi des islamistes djihadistes qui sont contents. Et puis je vous laisse...
Et puis Jordan Bardella, ministre de l'Intérieur, a du mal à tenir tout ça. Ce qui fait la très grande force de votre livre aussi, je crois, c'est tout le travail que vous avez fait sur le programme économique du Rassemblement National. vous vous amusez, entre guillemets, à appliquer la politique de Marine Le Pen et vous en arrivez à un déficit de 8%. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi tout déraille? Comment est-ce qu'on en arrive à ce déficit de 8%? Expliquez-nous.
Vous savez déjà, il faut voir d'où on part. Nous, on imagine qu'on est en 2026. En 2026, le déficit, il est à peu près à 6%.
C'est ça.
Peut-être 5, non, peut-être 6, peut-être même un peu plus. Donc entre 6 et 8, il n'y a pas grand-chose. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une émeute qui a un peu d'impact
sur les chaînes de télévision et voilà.
Voilà. Donc, en fait, ça fait baisser le tourisme de façon très forte. Ensuite, à force de dire que les immigrés ne sont pas les bienvenus, en fait, il y a un certain nombre d'entre eux qui partent. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, le déficit démographique européen, en fait, on ne le dit jamais, mais il y a une concurrence pour faire venir les immigrés. Certains partent à Dubaï, d'autres partent aussi tout simplement en Allemagne ou en Angleterre, etc. Et ça, ça crée des problèmes, par exemple, dans le BTP. Parce que dans le BTP, on est à 25, 30, 35% suivant les métiers, qui sont tenus par des immigrés. Et puis, il y a le hacking d'une grande banque. Et puis, il y a un certain nombre de procès qui avaient été engagés par des entreprises parce qu'il y avait eu un peu de forcing fiscal. Vous voyez, et en fait, tout ça, c'est pas grand-chose. Et cette question-là, elle va se poser si c'est Marine Le Pen, mais aussi si c'est pas Marine Le Pen. Parce que maintenant, on est arrivé à un tel niveau de déficit qu'en fait, ça tient vraiment à pas grand-chose, la stabilité générale.
C'est-à-dire que le débat qu'il y a en ce moment, notamment qui a été repris par François Bayrou sur qu'est-ce qu'être français, est totalement hors sol pour vous?
Non. Alors, je pense qu'il y a deux débats. Il y a le débat sur le droit du sol. Vous savez combien de personnes ça concerne, le droit du sol? C'est-à-dire la capacité à devenir français?
35 000, je crois.
35 000. 35 000 par an. Bon. On fait un débat comme ça pour 35 000 cas par an. Bon. Ça, pour moi, franchement, c'est absurde. Le droit du sol, il est déjà très restrictif. Mmh. C'est pas du tout le droit du sol américain. Faut attendre 13 ans, etc. Qu'est-ce qu'être français? Moi, je pense que c'est un beau débat, franchement. La question, c'est comment on le pose. Si on le pose pour cliver, pour dire qu'est-ce que ce n'est pas d'être français, et en fait, eux, ils ne sont pas français, ça, c'est un mauvais débat. Nous, le club 21e siècle, il se trouve, c'est le hasard, on a lancé un débat, il s'appelle parlonsfrance.fr, et ce qu'on dit, c'est la France, c'est vous. Et racontez-la ensemble. Et donc, chaque Français est une part de l'histoire nationale, du récit national, de l'identité nationale. Venez raconter. Et ne laissons pas le récit, précisément, à l'extrême droite, à ceux qui veulent exclure.
Alors, on n'est plus dans le livre, dans votre dystopie, mais le sujet est intéressant, et du coup, je me retourne vers vous, Jean-Noël Barrot. Le droit du sol, vous appartenez à ce gouvernement, il faut effectivement le supprimer, il faut encore le durcir, vous en pensez quoi?
Mademoiselle Valls dit qu'il faudrait un peu se...
Quand Retailleau et Darmanin poussent au contraire pour le supprimer.
Bon,
on supprime ou pas?
Tous les deux ont reconnu que ça ne pouvait pas être une mesure mise en œuvre rapidement. Je pense que tous les deux savent bien que même si cette évolution intervenait dans notre droit, ça ne produirait des effets que très longtemps après, puisque le droit du sol, il faut le rappeler, c'est la possibilité pour quelqu'un qui est né en France de parents étrangers d'être naturalisé à ses 18 ans. C'est-à-dire que si vous changez la règle aujourd'hui, ça ne produit des effets que dans 18 ans, si je puis dire. Ce que le Premier ministre a dit, c'est on ouvre un débat plus large sur ce que c'est que d'être français.
Mais vous trouvez qu'il est vraiment nécessaire, ce débat?
El Khaoui vient de dire. Je pense qu'il est nécessaire, oui, pour le volet positif de ce débat, c'est-à-dire la redéfinition de ce qui fait la France, de ce qui fait notre identité. On a eu des exemples qui m'ont, moi, personnellement, beaucoup touché avec les grands événements de l'année dernière. Je pense en particulier aux Jeux Olympiques, avec des héros français qui, en fait, sont passés par les associations des villages et des villes dans lesquelles ils vivaient et qui, progressivement, se sont élevés jusqu'au plus haut niveau international. C'est toutes ces histoires-là qui font ce que c'est que l'esprit français et qu'il faut qu'on arrive à définir. Sinon, effectivement, on tombe dans un piège où la seule définition qu'on trouve pour ce qu'être français ou ce qu'est la France, c'est ce que nous ne sommes pas. Et ça, il faut, à mon avis, l'éviter, parce que c'est une marque de faiblesse.
Hakim El Khaoui, vous êtes d'accord? Vous partagez le propos?
Oui, je suis d'accord. Après, sur ces sujets, en fait, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on traite les vrais problèmes. Il y a des problèmes concrets. Il y a des problèmes d'intégration, par exemple. On peut les nommer, on peut les mesurer, on peut les comprendre. Et puis, quand il y a un problème, en fait, c'est mieux de trouver des solutions. Par exemple, on dit qu'il y a des problèmes d'insécurité dans les quartiers populaires. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas des policiers et des gendarmes dans les quartiers populaires? Ce sont les endroits de France qui sont les plus sous-dotés. on a des problèmes de niveau éducatif. Ben, on croit qu'on met plus d'argent dans ces quartiers. En fait, on en met moins. On vit avec l'idée des milliards des banlieues. Les milliards des banlieues, ils n'existent pas. Mm-hmm. C'est des milliards d'investissements qui sont empruntés par des bailleurs sociaux et qui sont ensuite remboursés. Donc, nommons clairement les problèmes et puis trouvons des solutions plutôt que jeter des anathèmes.
Bon, on a alors aussi ça, des vous, problèmes voilà, pour ça. Reconduire les étrangers en situation irrégulière à la frontière. Et c'est pourquoi, même si le droit du sol peut faire partie d'un débat, si nous voulons obtenir des résultats rapidement, et c'est ce que souhaite le Premier ministre et le gouvernement, qui va convoquer un comité interministériel de contrôle de l'immigration dans les prochains jours, eh bien il faut qu'on puisse aller plus vite et plus loin, et notamment avec les pays d'origine. Et mon ministère est pleinement mobilisé pour que ces résultats soient obtenus.
Nathalie Segond, vous avez très peu de temps, mais je vous donne la parole, évidemment.
Dans une récente chronique à l'Opinion, en janvier, je crois, vous imaginiez, vous avez beaucoup d'imagination, vous disiez que l'époque était aux hommes forts et riches, et vous imaginez la candidature à la présidentielle de Xavier Niel, le patron de Free.
C'est toujours possible, ça, ou pas?
C'est une dystopie? Une autre?
Oh, je ne sais pas, c'est une dystopie, une utopie, ça, il faut lui poser la question. Mais
ça va en faire des candidats à la présidentielle.
Ce que j'imagine, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire, en disant, moi, j'ai une autre offre. L'époque est tellement populiste, le personnel politique est tellement décrédibilisé à tort ou à raison par les Français, que je pense qu'il y a de la place pour quelque chose de nouveau, d'une certaine manière.
C'est vous ce qui s'est passé en 2017. Vous revoulez un scénario à la 2017 avec un Emmanuel Macron?
Oui, mais pas quelqu'un qui vient de l'État, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui a un discours qui sait aussi être populiste.
Et tome 2 avec Jean-Luc Mélenchon, votre livre?
Non, tome 2, ce sera l'utopie.
Ce sera une utopie?
L'utopie, parce qu'il faut être positif.
Ça ne vous intéresse pas avec Jean-Luc Mélenchon?
Non, mais il n'y a aucun risque qu'il soit pour moi.
Merci à tous les deux, en tout cas. Merci Hakim El-Khaoui. Je rappelle le titre de votre livre, Marine Le Pen, présidente dystopie politique 2026-2029. C'est publié aux éditions des Petits Matins. Merci à vous aussi, Jean-Noël Barraud, d'être venu dans Questions Politiques. Un grand merci, évidemment, à toute l'équipe, Fabienne Lemoyle, à la rédaction en chef, et à Maurice Baucher pour la programmation. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis, évidemment, à la semaine prochaine.